Moi, j'avais pensé pour cet après-midi plutôt parler de Saint Bonaventure et particulièrement d'une œuvre qui est quand même une œuvre spirituelle très 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 importante, qui est la vision du Séraphin, qui a fait que Saint François, alors je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles, et François donc a été crucifié par le Séraphin. Et ça a été l'occasion pour Bonaventure de méditer aussi cela, cet événement. Alors, voilà, et ça a été une introduction à la vie spirituelle. Eh bien, Saint Bonaventure, je sais pas si vous avez lu quelque chose de Saint Bonaventure.
Tu nous avais prêché une retraite une fois.
Ah, tu vois, tu te souviens.
Oui.
Et sur les ailes du Séraphin?
Non.
Ah bon.
Non, vous avez parlé de Saint Bonaventure.
Oui, Bonaventure.
Longuement, mais.
Je ne sais plus.
Oui, moi non plus, parce que mais je ne me souviens pas. Je me suis dit, est-ce que je l'ai fait ou pas fait? D'abord, Saint Bonaventure, on va dire quelques mots, alors simplement, puisqu'on a accusé Saint Bonaventure. D'abord, Saint Bonaventure naquit en Italie, à Viterbe. D'Orvieto, il naquit en 1221. Et c'était les dernières années de Saint François, à ce moment-là, puisque François est mort en 1223. Il est né en 1181, François, 1181, et il est mort en 1223. Et Bonaventure est né 2 ans avant la mort de François, c'est-à-dire en 1221. Puis, il grandit, bien sûr, et quand il a 22 ans, il entre chez les frères franciscains. Et cela, c'est donc en 1243, 20 ans après sa naissance. Puis, il va à Paris, et il étudie, et il obtient une licence d'enseignement. Il a passé 5 ans d'études pour obtenir cette licence et il a 27 ans quand il devient licencié. Mais sa vie va très vite se transformer parce que par ses écrits, par sa personnalité, il va être élu ministre général des franciscains. Et cela, c'est en 1257. Et alors, à partir de ce moment-là, il va être très très pris par ce ministère, bien sûr. Il fallut régler des gros problèmes de l'ordre à ce moment-là, très très gros problèmes. Des problèmes qui étaient que la communauté était en train d'éclater entre deux grandes tendances qu'on appelle les spirituelles, qui étaient des gens qui voulaient les réformer à tout craindre, et puis les autres qui ne voulaient rester dans leur statut, dans leur position, et qui s'appelaient des conventuels. Et entre les deux, il y avait une bagarre, qui continuera d'ailleurs tout le temps, et de laquelle les Capucins sont issus aussi, puisque ça aurait été au XVIe une réforme encore, les Capucins. Mais là, au moment de Saint Bonaventure, il est en face en tant que donc supérieur général de toute la famille franciscaine et il est en face de ces deux groupes. Comment faire pour essayer de les concilier ou bien de trouver une voie moyenne qui permettrait à tout le monde de pouvoir vivre ensemble. Et alors, on l'a accusé de balayer tout ce qui avait été fait auparavant et puis recommencer à neuf. C'est une bonne tradition. Alors c'est pourquoi on a des nouvelles vies qu'il écrit lui-même de Saint Bonaventure. Et en 1273, il est élu cardinal. Il participe au Concile de Lyon, où il y meurt le 7 1974. Il a 53 ans. Il est canonisé et fait docteur de l'Église en 1587. Bon, si vous ne retenez pas les dates, ce n'est pas important. Alors, il va faire un travail. Il y en a un qui a peut-être... Sinon, ah oui, c'est quand, voilà, ça j'ai dû l'exposer. C'était l'âme en elle-même, l'itinéraire de l'âme en elle-même. Ah, c'était pour ça, c'était à cette occasion-là. L'itinéraire de l'âme en elle-même, alors c'est un travail où il voit que l'âme n'a pas besoin de regarder le monde, hein, de ses approches de vie, de la nature, pour trouver le mystère de Dieu. Que l'âme en elle-même, dans elle-même, elle a la présence intime de Dieu, et il faut qu'elle reste en elle-même pour trouver, pour grandir dans cette présence de Dieu. Ça, c'était l'âme en elle-même. Et puis, il y a un autre, il a fait plusieurs écrits, mais l'autre écrit d'aujourd'hui dont on va parler, c'est la... Il se rappelle, enfin, il va un jour alors le but c'est toujours le même, il veut partir de son expérience et comment l'âme doit faire pour s'élever progressivement vers Dieu pour atteindre l'union mystique. Voilà, ça c'était ce projet, comme tous les projets, le projet de tous ceux, des écrivains qui veulent tenter d'écrire un itinéraire, comme tout le Carmel, hein, qui veulent décrire un itinéraire pour atteindre le but qui est l'union mystique. Et alors un jour, il était en médité. Et il se trouvait, il va sur le mont Alverne pour faire un temps de méditation. Et cela, c'est vers la... secoué par tous ces problèmes qu'il a, on comprend, que tous les problèmes qu'il a à résoudre, il va désirer un petit temps de retraite. Alors il va au mont Alverne. Et alors, là, il médite. Et tandis qu'il méditait sur l'élévation de l'âme vers Dieu, sur ce problème-là, hein, et qu'il va se remémorer ce qui s'était passé à cet endroit-là. Or, on sait très bien ce qui s'est passé sur le mont Alverne, c'est l'apparition du séraphin qui a imprimé les plaies dans le corps de Saint François, à cet endroit-là. Et alors, il lui a semblé que voilà ce qui est cherché. À partir de là, on peut faire un itinéraire mystique. D'autres qui sont allés, et puis que peut-être nous aussi, en voyant cet événement du séraphin, on n'a peut-être pas pensé qu'on pouvait faire un itinéraire de l'âme vers Dieu. Alors, par contre, c'est ce que Saint Bonaventure voit. Et alors, il va se mettre à se lancer, à partir du séraphin, à voir qu'il y a des étapes possibles que l'âme peut faire pour atteindre le but dernier. Alors, il se dit, voyons voir, il y a les 6 ailes, mais dans le fond, ça peut servir pour faire penser qu'il y a la 6 illuminations que l'âme chemine peut recevoir dans son itinéraire vers Dieu. Donc il utilise le séraphin, puisque c'est un ange à 6 ailes. Ils se disent, ben, prenons l'exemple du séraphin, et il y a aussi, on va faire un itinéraire en 6 étapes. À cause du séraphin. Et c'est pourquoi ce travail qu'il a fait s'appelle « Les six ailes du Séraphin ». Alors, par quel moyen va se réaliser cette ambition? Alors, avant de rentrer plus, là, je viens de passer pas mal de feuilles, pour redire qu'il y a une introduction générale, si on veut, qu'il va reprendre. Et c'est et on va dire quelques mots quand même de cette introduction générale à la vie spirituelle. Et vous le savez, c'est normalement, dans toute la tradition, il y a trois étapes. Il n'y en a pas six, il y en a trois. La première, c'est la purification. La deuxième, c'est l'illumination. Et la troisième, c'est l'union. Traditionnellement, il y a donc une montée spirituelle, progressive, dont le but est la participation à la gloire qui apportera le bonheur absolu. Cette montée progressive se fait par étapes. Alors cela veut dire que notre vie, si on le veut, est animée d'une force que par le baptême nous avons reçue, la grâce, la force du Saint-Esprit, pour pouvoir faire cette montée. Bon, le Saint-Esprit nous aide à beaucoup d'autres points de vue, mais il peut aussi nous aider dans ce cas plus précis de la montée mystique vers Dieu. Alors comment ça commence normalement? Eh bien, ça commence par une prise de conscience de la présence de l'Esprit qui nous habite. Et on pourrait faire un rapprochement avec la Genèse, quand la Genèse dit au premier jour que la lumière soit. Et alors que Saint Grégoire de Nice, par exemple, pense, parce que ça c'est une introduction générale, alors on peut mêler d'autres personnes que Saint Bonaventure, avant de revenir à Saint Bonaventure, c'est dans ce grand cadre, si on veut, de ces montées, de la montée vers Dieu. Et là il pense que dans le fond, le premier jour de la Genèse, qui est un jour d'illumination, ah ben voilà, ça peut faire vraiment le point de départ d'une vie mystique. Parce que la lumière fait chasser les ténèbres, donc chasse ce qui renferme l'âme loin de Dieu, c'est l'illusion. Pour Saint Grégoire de Nice, c'est l'illusion qui maintient les âmes dans la torpeur, et qui fait qu'ils n'ont aucun goût pour pouvoir monter, parce que l'illusion, c'est que la vie s'arrête à la terre, elle n'a pas d'autre chose. Alors, s'il y a une illumination, puis je crois que ça, ça se vérifie, là, celui dont je vous parlais ce matin, là, il y a un événement d'Esprit Saint dans les personnes, ben, d'un seul coup, il s'aperçoit que non. Le monde n'est pas la fin des choses. Et ils sont en train de vivre quelque chose, et souvent, ça se termine dans des pleurs, et ils sont secoués par des sanglots, et les larmes fondent, comme si l'âme fondait d'un seul coup. Et cet homme, il y a un homme qui m'a dit, j'ai jamais pleuré de ma vie, et d'un seul coup, il s'est mis à pleurer devant moi. Il n'en revenait pas, il dit, je ne comprends pas pourquoi je pleure. Alors, j'ai vu que c'était un événement de l'esprit à ce moment-là qui le faisait pleurer, quoi. Et ça a été le point de départ pour lui aussi. Il sort de l'illumination. Et il s'en va. Alors, mais ça rejoint l'entretien que Jésus avec Nicodème. Hein, quand Nicodème vient le voir pour lui dire, bon, parce qu'il est inquiet cet homme. Et il est devant le Seigneur, il voudrait savoir comment faire pour. Bon, il lui pose des questions. Et alors Jésus lui indique une renaissance. Il vous faut renaître d'en haut. Et alors, comme le bonhomme ne comprend pas, qu'il faut. Il dit ben, je ne peux pas renaître dans le sein de ma mère, moi je ne peux pas y revenir, c'est fini, quoi. Et Jésus lui dit il ne s'agit pas de cette renaissance-là. Il s'agit d'une autre renaissance. Et l'autre se pose encore la question, comment ? Eh bien, c'est la renaissance du Saint-Esprit. Et comment ? Ben, lui dit, écoute, c'est comme le vent. Tu vois, là. Seulement c'est imperceptible. Et je crois que ça se vérifie aussi quand on est avec des personnes. On voit bien qu'on ne sait pas comment ça se passe. Mais ça se passe, d'un seul coup, l'esprit souffle. Et l'image du vent qui vient de nulle part, qui va nulle part, qu'on ne peut pas saisir, est une véritable image très, très précise, très parlante de l'action de l'esprit, qui aussi, qu'on constate, mais on ne sait pas. Au moment où vous discutez avec la personne, vous ne savez pas que l'esprit, d'un seul coup, va intervenir. Vous discutez. Et puis moi, c'est ma surprise. D'un seul coup, le vent souffle. Et cette personne reçoit en elle, comme un choc, une illumination. Et elle se met à pleurer. Et elle sent que sa vie brusquement est là. Quelque chose d'incroyable se passe, comme un ébranlement vraiment dans la personne. Alors, après, à partir du moment où la personne est renée, a reçu une illumination, elle a un chemin devant elle, une aventure spirituelle. Alors, quand on célèbre l'ascension, dans le mystère de l'ascension, je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant, parce que c'est parmi tous les autres mystères du Christ. D'abord, c'est le dernier acte du Christ sur la terre. D'une certaine façon, c'est le couronnement de son œuvre. Et c'est l'ascension inoculée pour monter vers le Père. Alors, l'ascension est aussi un signe. Et quand on vit le mystère de l'ascension, on peut le vivre aussi du côté où nous sommes pris par la force divine pour que l'ascension est peut-être le mystère qui nous accompagne, car la force qui nous accompagne pour monter vers une plus grande plénitude de vie dans l'esprit. Bon, ça c'est une petite introduction qu'on va retrouver maintenant précisément dans un autre travail, parce que cette ascension, que ce travail premier, là, cette ouverture, cette introduction, vous pouvez la trouver pour, par exemple, Origène. Origène, au IIe siècle, qui travaille avec la parole de Dieu, et pour voir qu'il y a des étapes, par exemple, ça c'est très intéressant, on pourrait le faire aussi, en prenant le livre de l'Exode ou la sortie d'Égypte. Ben là, on peut lire la sortie d'Égypte comme autant d'événements qui se produisent au fur et à mesure où le peuple rentre dans le désert, etc. Manque d'eau, trouver les serpents, etc., etc. Et alors, on pourrait faire de ce livre, de la sortie de l'Exode, on pourrait faire aussi une montée. On pourrait très bien travailler pour voir une montée de l'âme qui elle-même traverse aussi tous ces événements que le peuple de Dieu a traversés. Alors là, on aurait un itinéraire spirituel fait à partir de la parole de Dieu. Si on va vers Grégoire de Nice a un itinéraire différent. Lui, il est dans la tradition, il voit les trois étapes. Et alors, il a fait une thèse merveilleuse. Et lui surtout dit ça, l'illumination qui est le premier moment de l'entrée dans le processus de l'itinéraire de l'âme vers Dieu. Si maintenant, par exemple, vous allez au contraire au Carmel, ben, vous avez d'autres itinéraires, vous avez l'itinéraire en sept étapes, vous voyez, mais toujours de la Madre, de Sainte Thérèse d'Avila, vous avez toujours un processus où on va essayer de décrire des étapes, quoi, qui mènent à Dieu. Voilà. Eh bien, que ce soit, alors voilà, pour certains grands auteurs et qui ont donné naissance à des itinéraires dont on se peut, dont on se sert soi-même, parce qu'ils les ont créés, ils ont vécu, ils nous les ont transmis. Saint Bonaventure fait le même travail. Alors maintenant, nous rentrons dans le travail qu'il a fait. Il nous apprend d'abord que pour faire cette montée vers Dieu, il y a deux conditions nécessaires. La première, c'est l'amour du crucifié. S'il n'y a pas en nous un amour profond du Christ, toujours vivant, on ne fera pas cet itinéraire. On n'aura pas le goût, on n'aura pas le désir. Alors, donc, c'est pourquoi il commence par ses écrits, je les voici. « Aimons tous le Seigneur Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit, de tout notre pouvoir et courage, de toute notre intelligence, de toutes nos forces, de tout notre effort, de toute notre affection, de toutes nos entrailles et de tous nos désirs, de toutes nos volontés. Il nous a donné et nous donne à tous le corps et l'âme et la vie. Il nous a créés et rachetés. Il nous sauvera par sa seule miséricorde, malgré nos faiblesses et nos misères, nos corruptions et nos hontes, nos ingratitudes et nos méchancetés. Il nous a fait et nous fait que du bien. » Donc cette première connaissance du Christ qui nous appelle à nous, qui nous demande de nous attacher à lui dans l'amour, par l'amour. Comment recevoir l'amour ? Ça, maintenant, c'est encore un autre sujet, c'est par le don du Saint-Esprit. Et tout tant de bonté, pour lui, la reconnaissance de cette bonté du Seigneur qui nous a créés est telle que ce devra susciter un violent désir de s'unir pleinement à lui, puisqu'il nous a créés par amour, puisqu'il nous aime. Alors cela devrait enflammer notre cœur d'amour pour répondre à son amour. Et pour cela, c'est l'événement de la prière. Donc Saint Bonaventure invite son lecteur qui voudrait profiter de son enseignement de commencer par s'emplir de sentiments d'amour. Et à partir de ce moment-là, il pourra faire une lecture. Mais autrement, ça restera encore qu'une lecture intellectuelle. Il faut que le cœur s'ouvre. Tout ce qu'on avait dit avant de rentrer dans la retraite. Qu'il soit touché, que nous soyons touchés dans notre cœur essentiel par le don du Saint-Esprit qui toujours dépose un baiser en nous, un souffle en nous, pour nous mettre en disposition de nous ouvrir à Dieu. Et il nous prévient de ne pas chercher une connaissance intellectuelle, érudite, mais de nous faire enflammer, de nous laisser enflammer du désir d'aimer, de s'ouvrir au mystère. Et c'est en fait l'attitude de toute la sagesse. Les pères d'Orient ne cesseront de dire qu'il faut faire descendre son intelligence dans son cœur. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a un mouvement comme ça qu'on va faire, mais ça veut dire que toute l'intelligence qu'on prend ou qu'on cherche, si elle n'est pas pour aimer, si elle ne vient pas du cœur, si elle reste au niveau seulement de l'intelligence rationnelle, où on voit le meurtre, on voit le monde, on le décrit, etc., etc., mais on voit pas que, par exemple, je ne sais pas, je suis en train de voir un arbre, ben, je peux le décrire, ça ne me fait rien. Mais si brusquement je vois dans cet arbre, si ça me rappelle l'arbre de la croix, et si je vois comme une créature de Dieu, toutes les choses changent. Mon intelligence alors est fécondée par l'amour, et je vois les choses autrement. Le deuxième moyen qu'il nous dit comme étant nécessaire pour s'inspirer, pour entrer dans le chemin de la vie spirituelle, c'est pour lui, enfin, c'est ce qu'il nous donne comme, comme itinéraire personnel, c'est ça, son œuvre à lui, hein, sa, son génie d'avoir trouvé dans le séraphin de pouvoir faire cet itinéraire. Il nous a mis, nous sommes en situation hein, pour accueillir vraiment dans, avec amour ce que. Ce que l'esprit vient nous donner pour penser qu'effectivement nous allons faire nous aussi avec lui une montée à l'aide des ailes du séraphin. Les deux premières ailes de ce séraphin vont signifier la contemplation de Dieu à partir du monde visible. Bon, bah écoutez, c'est ce que nous avons fait pendant la première, le premier temps de la retraite, la première journée. Quand on a cherché des voies de, naturelles pour la connaissance de Dieu. Les deux autres ailes médians introduiront l'âme pour y méditer sa nature d'image de la Sainte Trinité. Donc ça fait déjà un progrès où on passe d'une simple contemplation, enfin, naturel, on est rentré déjà en nous-mêmes pour voir que nous sommes à l'image de Dieu. Ça, ce sont... Et les deux dernières ailes vont nous révéler le bien et le beau. Et il y aura une dernière étape. Là, ça, les six ailes qui nous mèneront à une dernière étape que fait Saint Bonaventure, une septième, et celle-ci, c'est la ferveur de l'extase. Voilà. Bon. Alors, nous sommes en chemin. Alors, nous allons dire que dans ce travail, Saint Bonaventure ne veut pas faire une œuvre de philosophe, alors que c'est un grand philosophe, mais une œuvre de théologien. Alors, les deux premières ailes du séraphin. Ces deux ailes concernent la contemplation naturelle. Elles nous rappellent ce que nous avons médité, mais je vous le redis quand même, on va retrouver nous ce qu'on avait médité. Hein. C'est-à-dire qu'elles nous rappellent que l'univers dans lequel Dieu nous a placés en nous créant porte en lui sa présence et qu'on peut reconnaître son œuvre, sa présence dans son œuvre. Et ces deux ailes vont élever notre esprit au-dessus de la terre. Bon, comment ? Ben, c'est tout simple. On ne va pas... Mettons, enfin, mon bonhomme, là, le bonhomme auquel je pense, ben, sa vie, ça a été de regarder le monde, vivre le monde, mais sans jamais s'élever au-dessus pour voir qu'il y avait dans ce monde une présence divine. Bon. Nous trouvons... Et nous retrouvons là la parole de saint Paul aux Romains, « Ce que Dieu a d'invisible depuis la création se laisse voir à l'intelligence. » Nous avons vu aussi, je crois qu'on... Ce sont des choses que nous avons reprises hier. Saint François nous dit la même chose dans son cantique de Frère Soleil. Et nous savons combien notre âme franciscaine est sensible à ce champ du monde. Alors... La première étape de la contemplation naturelle doit nous accompagner tout au long de notre itinéraire, même quand les autres ailes nous emporteront plus haut. Et ça, je crois que c'est vrai. Ça veut dire que même si on pense à la présence de Dieu en nous, dans l'horizon, par exemple, et puis que... Bon, à un certain moment, on est dans la paix, on sent bien qu'on est dans la présence calme de Dieu en nous-mêmes, ce qu'on appelle l'horizon de quiétude. Bon. Eh bien, et que c'est un autre moment, qu'on n'a pas besoin du monde extérieur. Eh bien, même si on atteint ce degré, selon le Carmel, ce degré de quiétude, hein, au bout d'un certain temps, bon, ben ça veut dire qu'on a acquis, là on a monté, on est au-delà encore, on a gravi d'autres étapes, et on est simplement de la purification, et puis on a atteint un moment qui est un moment beaucoup plus spirituel, beaucoup plus, parce que là, on a la conscience de la présence du Père en nous, la conscience de la présence de Dieu, on est dans la paix. Bon, mais même si on fait, même si on a été honoré par Dieu de ce degré-là de vie spirituelle, qui est un degré plus élevé, ben néanmoins, la contemplation du monde extérieur demeure et peut toujours nous aider. Voilà ce que nous dit Bonaventure, c'est-à-dire que cette première étape n'est pas, elle va nous conduire plus haut, mais elle a encore de l'importance. Quand vous vous retrouvez dans la nature, là, ben, ça vous parle. Hein, même si vous avez une vie spirituelle beaucoup plus élevée que la contemplation naturelle. La contemplation naturelle est toujours là pour vous aider. Et alors, on peut dire que le psautier dans son ensemble est une relecture de ce qui se passe dans le monde, des souffrances, de l'émerveillement. C'est-à-dire que tout ce qui est de l'observation extérieure du monde et aussi de l'histoire des hommes, des souffrances, de tout cela, qui sont, pour un homme qui n'a pas de, qui ne voit pas dans le Saint-Esprit, qui sont des événements de l'histoire, pour nous qui le voyons au contraire avec les yeux de la colombe, c'est-à-dire du Saint-Esprit, eh bien pour nous, toutes ces souffrances nous rappellent la croix du Christ, tous les événements nous rappellent quelque chose du mystère de Dieu. Donc tout cela, qui fait partie aussi de la vision de la création, qui parle de son créateur, que ce soit de ce côté-là ou que ce soit du côté des hommes, on voit le vivre, on souffre de ce que les uns et les autres ne décollent pas, ne reçoivent pas une illumination, etc. Tout ça, c'est du domaine de la perception, eh bien, tout cela reste un support, reste valable pour continuer, pour faire notre itinéraire. Et c'est, en le fond, ce serait, disons, les deux premières ailes qui nous élèvent un peu au-dessus des choses pour nous faire voir effectivement que dans la souffrance, c'est le Christ, que dans le monde, c'est la présence du Créateur. Vous voyez, on est élevé, on a une vision qui est un peu plus élevée que la vision normalement terrestre qui laisse les choses à ce niveau-là. Saint Bonaventure analyse cette faculté de discernement que reçoit l'âme alors pour contempler. Ben oui, pour faire cette première démarche, vous voyez bien qu'il y a un discernement dont Paul parle souvent du discernement. Discerner dans la nature la présence du Seigneur, discerner dans la souffrance de l'autre qu'il y a un mystère qui s'accomplit, qui est celui du Christ. Discerner tout cela demande une aide divine. Et il trouve que ce discernement pour contempler va exiger trois aspects, et que se passe par, disons, par trois étapes aussi, si on veut. Premièrement, c'est par les sens naturels que nous avons une connaissance du monde matériel. Bon, ben ça, tous les auteurs en parlent beaucoup. Deuxièmement, c'est par la conscience qui nous permet une connaissance intellectuelle et rationnelle. Ça, c'est le fait de tout le monde. Et troisièmement, par l'esprit qui nous ouvre à la perception du transcendant en nous apportant la connaissance de l'amour. Donc nous avons, on l'a dit aussi, pour faire ce travail de discernement, hein, où on n'est pas uniquement, on colle pas uniquement à la terre, mais on voit que dans les événements terrestres, on peut s'élever au-dessus pour mieux comprendre. Pour faire ce discernement, nous avons été dotés par le Seigneur par trois facultés dont on a parlé déjà. C'est simplement un rappel parce que ça en fait partie, de l'intelligence, la volonté et la mémoire. Et en fait, ces trois facultés devraient permettre à tout homme de pouvoir faire le discernement. Ces facultés devraient permettre à tout homme de pouvoir au moins démarrer, aller un peu plus loin que simplement un horizon terrestre, mais déjà commencer à s'élever. Parce qu'ils ont, tout homme a en lui-même, gratifié en lui-même, des moyens de faire le discernement par l'intelligence des choses, par l'amour qui enflamme, par la mémoire qui rappelle que notre origine est divine, la mémoire du Père. Donc, en fait, si l'esprit marchait correctement, le discernement se ferait. Mais l'esprit a été gravement perturbé par le péché d'origine. Et alors, ça explique la difficulté que tant de gens ont, se sentent incapables de s'élever, de faire même ce premier moment-là, ces premières ailes, de prendre ces deux premières ailes du séraphin pour s'élever au-dessus des réalités concrètes, matérielles, pour s'arracher, pour décoller, pour s'arracher de la terre. Les deux grands péchés qui empêchent, selon Saint Bonaventure, ce départ, cette élévation, c'est, selon lui, l'orgueil et la vanité. Et c'est contre cela que le Christ est venu apporter un salut qui permet une libération. Le Christ, alors il écrit, le Christ a rendu à l'âme l'entière rectitude de son triple regard. Il a répandu en nous la grâce de la charité, une conscience droite, une foi sincère. Alors à partir de ce moment-là, nous avons un regard qui n'est plus obscurci par le péché, puisque le Christ nous en a libérés, et nous pouvons entreprendre ce chemin. Et Saint Bonaventure devient très dur, hein, très dur, pour ceux qui alors ne veulent pas quand même utiliser de ce don que le Seigneur fait, de purification de l'esprit, des sens, pour pouvoir faire un itinéraire mystique. Et il leur dit ceci, celui que tant de splendeur n'illumine pas est un aveugle. Il est devant les splendeurs de la création quand même, devant la beauté, devant l'émerveillement, et ça le laisse froid. Ben, il dit, celui-là c'est un aveugle.
C'est un
aveugle. Celui que tant de cris ne réveille pas. Ces cris, c'est tout ce que nous avons analysé, ces petites voix qui disent la présence de Dieu. C'est comme des cris, que ce soit les cris des alouettes, des chants, des oiseaux. Celui qui ne comprend pas cela, celui que tant de cris ne réveille pas, est un sourd. Celui que toutes ses œuvres ne poussent pas à louer Dieu est un muet. Celui que tant de signes ne force pas à reconnaître le premier principe est un sot. Il n'y va pas parmi le... Alors il dit, ouvre les yeux, prête l'oreille à ton oreille, prête l'oreille à ton âme, délie tes lèvres, applique ton cœur, Toutes les créatures te font voir, entendre, louer, aimer, servir, glorifier et adorer ton Dieu. Sans quoi, prends garde que l'univers entier accablera un jour, ne se dresse contre toi, car pour cet oubli du monde, le monde entier accablera un jour les insensés, tandis qu'il sera une source de joie, de gloire pour le sage, qui peut dire avec le prophète, « Tu m'as rempli de joie, Seigneur, par ta création. Je jubilerai devant les ouvrages de tes mains. Quelle magnificence dans tes œuvres, Seigneur. Tu as tout fait avec sagesse, la terre est remplie de tes dons. » Et bien de cette contemplation naturelle, peut-être on peut rapprocher aussi les deux premières demeures de Sainte Thérèse d'Avila, ou de Saint Jean de la Croix, qui est la purification pour entreprendre. Alors ça, on traverse tous des purifications. Je crois qu'au début d'un itinéraire, enfin moi je l'ai prouvé beaucoup, hein, en rentrant dans la vie monastique à l'ermitage, ben c'était un temps, et même le lieu faisait en sorte, hein, il y avait une pénitence vraiment, la nuit sortir de la caverne là-bas pour aller à la chapelle en pleine nuit, recommencer tout cela, etc. C'était l'occasion pour moi à chaque fois de voir le ciel, de penser, etc. Mais et c'est vrai qu'il y a eu dans toutes nos vies un temps plus fort de purification. Alors il revient avec le carême, voilà. Et c'est ce premier temps que les deux premières ailes demandent, quoi, pour purifier, pour s'élever, pour faire ce premier décollage. Hein, voilà. Les deux ailes maintenant médians du séraphin. Alors il s'agit du troisième et quatrième degré de connaissance de Dieu. Au troisième degré, le regard se porte non plus sur le monde extérieur, mais il va entrer en soi-même. C'est l'âme, c'est l'itinéraire de l'âme en elle-même qui est concerné par ce troisième degré. Saint Bonaventure écrit, « Nous essayons de saisir Dieu par le miroir de notre âme. » Cela signifie que notre âme est faite, qu'elle est un miroir qui resplendit Dieu en nous. Donc il n'y a pas à chercher à l'extérieur, il faut rentrer en nous-mêmes pour voir resplendir en nous. Et là, vous connaissez Saint Paul, on retrouve Saint Paul immédiatement là, pour voir en nous briller la face, briller le resplendissement de la gloire de Dieu dans notre être. Qu'est-ce que c'est que ce miroir? Saint Bonaventure utilise là une image, ou un moyen plutôt, qui a été très utilisé au Moyen-Âge et que l'on rencontre rarement dans la Bible. Saint Paul l'utilise pour décrire les effets de la contemplation du Seigneur. Et lorsqu'il écrit « Nous tous, le visage découvert », vous connaissez cette réflexion, « nous réfléchissons comme en un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en cette image toujours plus glorieuse. » C'est 2 Corinthiens 3, 18. Et dans notre condition actuelle, cette illumination s'accomplit dans l'homme intérieur. En 1 Corinthiens 13, 12, nous lisons « Aujourd'hui, nous voyons dans un miroir d'une façon confuse, mais alors ce sera face à face. Mais nous vivons, nous voyons. Il y a une réalité, et les hommes du XIIe siècle ont le sentiment que le monde est comme un miroir qui réfléchit Dieu à travers ses œuvres. Cette conscience que nous n'avons plus. Même avec toute la science, on ne va jamais penser que les astrophysiciens nous font voir. Il y en avait un, et à un moment donné, dans une rencontre scientifique, il était tellement pris par ce que l'intelligence créatrice faisait en lui comme une révélation, il a dit à un certain moment, c'est comme si on voyait Dieu. Il a été éjecté de la communauté scientifique à ce moment-là. Les gens sont partis et il a eu cette expression, c'est qu'il avait vu Dieu. J'ai vu Dieu. C'est vrai. C'est vrai. Seulement, on n'a pas voulu voir comprendre qu'on pouvait voir Dieu dans les mathématiques, qu'on pouvait voir Dieu dans l'évolution, dans les astres, dans la façon dont tout a été prodigieusement à partir de rien, à partir de la graine première, à partir de toute l'évolution, de tout ce qui a pu se passer, quoi. Alors ça, c'est de la science pure, donc il faut le regarder avec la science pure. Et pas ce bonhomme-là est pris par cette compréhension dans l'esprit, c'est un coup d'esprit, de voir que c'est magnifique, c'est quelque chose qui n'est plus humain, c'est quelque chose où c'est Dieu qui est là, quoi. Et alors il dit ça, j'ai vu Dieu. Eh bien, dans ce miroir, on peut dire que vraiment lui-même on peut employer beaucoup, beaucoup d'expressions diverses pour qualifier ce qui s'est passé, mais on peut parler en termes de miroir. Il y a eu toute une spiritualité du temps de François, et qui a beaucoup. Claire aussi, qui a beaucoup. Qui était le miroir. Claire utilise beaucoup ce symbole dans sa vie spirituelle. Elle utilise le mot miroir 12 fois dans ses écrits. François l'ignore. François ne parle pas de. Lui, il médite directement les mystères du Christ. Claire donne cet enseignement à Agnès de Prague en lui demandant de se considérer comme une fille du Très-Haut. Agnès de Prague, qui a été très attirée qui a entendu parler de Claire et puis qui envoie, il y a une correspondance qui s'établit. Alors c'est très amusant quand vous lisez cette correspondance. C'est que Claire répond pour la première fois à Agnès de Prague, qui était destinée à être la femme de l'empereur. C'est pas n'importe qui. Et puis voilà bien que cette femme écrit à Claire pour lui demander des conseils et tout. Bon, elle se met dans les petits souliers pour lui répondre, quoi. Alors elle lui répond de la façon dont on répond à quelqu'un de grand, malgré tout, quoi. Et elle l'invite à entrer dans le chemin de Dieu, dans le chemin d'abandonner le monde pour trouver le véritable époux et non pas l'empereur. Et puis après la deuxième lettre, troisième lettre, quatrième lettre, on voit que ça change. La deuxième et troisième et quatrième lettre, on voit que ça change, le temps change un peu. Alors elle va lui parler directement. Elle n'use pas, on a l'impression qu'il y a un mur qui est entre elle et elle.
Mais c'est que du spirituel après.
Et c'est que du spirituel après.
Il n'y a plus de forme humaine, mondaine.
Oui, voilà. Oui. Et c'est formidable de voir que. Alors là, c'est là qu'elle emploie. Elle est baignée dans une culture aussi, une culture de son temps, quoi, où le miroir a beaucoup d'importance. Donc elle va lui parler du miroir de son âme. Elle lui dit, contempler le Seigneur glorieux qui l'habite, alors elle lui révèle la grandeur de l'amour qui l'a poussé à mourir pour elle, pour elle, donc Agnès, et aussi pour tous les hommes. Alors, Claire se voit dans le miroir de son âme, l'épouse, alors elle lui dit que maintenant, puisqu'elle se donne, puisqu'elle a quitté le monde, et puisqu'elle se donne au Christ, elle devient l'épouse de l'épouse du Très-Haut. Prends-toi. Et alors, elle dit que Agnès n'a plus qu'une chose à faire. C'est à partir de ce moment-là, on prend conscience, puisqu'elle en a pris conscience, elle est sortie du monde, et puis elle reçoit cet enseignement de Claire que maintenant, elle est dans une relation avec le Christ, et son époux, dont elle est épouse. Alors, elle lui dit, maintenant, prends ce chemin. Et puis, ne quitte pas. Et augmente. Elle sait ce que lui dit. Prends. Alors, elle écrit à Agnès, prends-moi avec toi, mon époux céleste. Je te poursuis sur tes traces, sur la trace de tes parfums. Je ne m'arrêterai de courir qu'une fois introduite au cellier, lorsque ton bras gauche soutiendra ma tête et que ta droite m'étreindra et que tu me donneras le baiser de ta bouche, le délicieux baiser. Alors ça, c'est la quatrième lettre à Agnès. Bon, c'est un petit tour, un petit détour qu'on vient de faire. Mais pour dire donc, à ce moment-là, il ne s'agit plus de l'extérieur, mais il s'agit de vie, d'une vie intérieure. D'une vie intérieure où, conformément à Saint Jean, 12:46, je crois, le Père et Jésus et le Père viendront et habiteront en nous et feront notre demeure. Donc à partir de ce moment-là, c'est la vie intérieure. Et c'est donc alors qu'est-ce qui va se passer? Saint Bonaventure, il va analyser les opérations que l'esprit va faire à ce moment-là. Elles sont au nombre de trois. Ce sont les trois grandes facultés que Dieu a créées pour que nous soyons capables de connaître, de vouloir. Alors, il va y avoir une action de Dieu sur la mémoire, premièrement. Saint Bonaventure écrit que la mémoire retient le passé par le souvenir. C'est un lieu de conservation, c'est un grand réservoir, la mémoire. Et où on amasse tout un ensemble de choses que notre vie nous permet de découvrir. Et la mémoire est là. Seulement, pour les gens, la mémoire... Il y a un gros problème en ce moment pour la mémoire. C'est la purification de la mémoire. Alors, les gens, je crois que j'ai... au niveau de l'exorcisme, je lis ça beaucoup. On veut faire des exercices de purification de la mémoire, comme si les gens ressentaient que pèse sur eux le péché des ancêtres. Ah oui, il faut purifier tout ça. Bon. Moi, je sais pas. Je le ressens pas du tout, personnellement.
Il y a tout un courant de psychogénéalogie. Et tout
ça. Voilà. Ah oui, ça, c'est un courant.
C'est terrible. Hein,
c'est un courant. Ouais. Et je crois que c'est un courant d'inquiétude profonde. Les gens sentent qu'ils ne sont pas à l'aise, ils ont un mal d'être.
Et ils s'en sortent pas.
Ils s'en sortent pas. Et ils veulent savoir pourquoi. Ouais. Alors ils se disent, c'est un tel. Ouais. Alors, des gens qu'on reçoit, ils sont dans un quartier, ou je ne sais pas là, il y a une maison, puis il y a une maison à côté. Ils savent d'où vient le problème. C'est la personne qui est là à côté, qui leur envoie des sorts, qui les gêne, qui fait tout ça. Bon, après, quand c'est pas ça, ils vont chercher encore plus loin. Mais ils s'accusent pas eux-mêmes. Ils vont pas voir qu'il y a un changement qu'il est en lui. Alors moi, toutes ces affaires de purification, de généalogie, tout ça, moi, si ça les intéresse, et puis ils le font, moi je m'en fiche. Mais vraiment, j'y crois.
Tu arrives à un résultat par
Non, ils s'en occupent pas. Non, moi je m'en occupe pas. La seule chose que je renverse. ce que je renverse, ce que je renvoie plutôt, c'est à la, au purgatoire. C'est au purgatoire, simplement, compris pour les âmes du purgatoire. Ça au moins, c'est du concret. Parce qu'on sait très bien que ces âmes-là sont en état de purification, mais compris alors pour elles, sans aller chercher en ce moment dans tout un tas de choses psychologiques, quoi, des ancêtres et tout ça, quoi. Voilà, bon, c'est pour dire que la mémoire, cette mémoire que ces gens entretiennent, à mon avis, elle est fausse. Voilà. Elle est empreinte de l'angoisse, du péché, et nous avons une autre. Et notre mémoire, nous, elle est joyeuse, elle est illuminée. Notre mémoire, c'est le Père. Ce qui nous ramène au plus profond du plus profond, c'est le Père. Nous n'avons pas à craindre, nous avons un Père des cieux qui est là. Notre mémoire, nous allons, si nous nous retournons dans un mouvement psychologique qui nous ramène par la fonction de la mémoire, puisque la mémoire a une fonction psychologique qui nous ramène sur le passé, c'est que nous venons du Père, c'est que nous venons de Dieu. Jésus dit, je viens de Dieu et je retourne vers le Père. Eh bien, c'est ce mouvement-là que nous aussi, nous vivons. Nous vivons dans le Christ ce que le Christ a vécu, ce qui nous fait voir, ce qui nous fait permettre de vivre. Et la mémoire du Christ, c'est le Père. Le Père et moi, nous sommes un continuellement. Eh bien, nous aussi, notre mémoire, c'est le Père. On n'a pas à les chercher, si c'est les antennes, je ne sais pas trop quoi, moi. Bon, c'est d'abord, alors, ce que lui-même, Bonaventure, nous dit à ce moment-là, des trois facultés qui nous permettent de vivre cette vie, cette union intime. Eh bien, effectivement, on ne va pas chercher le Père, on ne va pas le chercher ailleurs, comme ça, dans les images, n'importe où. Nous le trouvons dans notre aide. Ferme la porte, va dans le secret, et là, ton Père te parle. Tu es aussi... Eh bien, ce n'est pas des paroles, mais c'est une présence. Tu vas chercher une présence. Alors, c'est un combat. Tout le monde sait bien que c'est un combat, l'oraison. C'est certain. Mais au moins, c'est ce mouvement qui nous amène dans l'adoration de celui qui nous habite, qui est le Père. Deuxièmement, l'intelligence. Bon, on en a suffisamment parlé pour dire que effectivement notre intelligence, elle est faite pour discerner ce que le monde, ce qu'est le monde, ce que nous sommes, comment y vivre. À tout moment, on fait œuvre d'intelligence. Mais il y a donc une intelligence qui, si on ne la décroche pas de la terre, elle n'est pas faite pour ça. Elle est faite pour ça, bien sûr, mais elle n'est pas faite que pour cela. L'intelligence, c'est de comprendre profondément d'où nous venons, où nous allons, comment vivre en Christ, en Dieu. L'intelligence qui est renouvelée par le Saint-Esprit, c'est celle qui s'assise sur un fondement sûr, le fondement de la vérité. L'intelligence est faite pour la connaissance. Alors, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? Moi, je suis très frappé par ça. C'est qu'on voit un mensonge ou un mur obscur, c'est jamais clair. On peut pas arriver, les gens ne peuvent pas arriver à dire vraiment clairement que le Christ est l'absolu et que l'intelligence est dans le Christ, elle n'est pas ailleurs. Que la connaissance est absolument dans le Christ. Il est l'intelligence absolue. Alors on va la chercher ailleurs dans les Bouddhas, les machins, tout un tas de trucs, etc. Et même de groupes d'apparitions où ils essaient de trouver, je ne sais pas trop quoi, quel gourou qui va leur parler de quelque chose, quoi. Et en fait, le Christ n'est pas là. En eux, le Christ n'existe pas dans ce cas-là. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Bonaventure là ? C'est que, en fait, l'intelligence dans le Christ touche l'absolu de la vérité. Nous touchons l'absolu de la vérité. Quand les gens disent, oh, la vérité. Alors, c'est bien sûr devant le procès, Pilate qui dit à Jésus, oh, la vérité, mais qu'est-ce que c'est ? Ben oui, la vérité. Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà, c'est-à-dire que tout est relatif, etc. Les gens vous disent, oh, bah oui, tout c'est relatif, tout se tient, Bouddha, Jésus, n'importe qui, tout, voilà. Bon, oui. Alors, Bonaventure pose un procès, un fondement. Alors, ça, moi, je trouve que là, c'est plus que fondamentalement important, il y a un fondement, un roc. Jésus est un roc absolu de la vérité. La vérité est là, elle n'est pas ailleurs. C'est un roc absolu. Il y a la parole de saint Augustin, « La lumière de tout raisonnement cohérent s'allume à la vérité éternelle et s'efforce de la rejoindre. » La lumière de tout raisonnement cohérent. Si on fait quelque chose, un raisonnement cohérent, eh bien, ce raisonnement est fondé, il s'allume, il est fondé dans la vérité essentielle éternelle, dans ce roc qu'est le Christ, puisqu'il est la vérité. « Je suis la vérité », dit Jésus. « Je suis la vérité et la vie, je suis la vérité. » Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vérité, la lumière de la vie. Alors, c'est là que donc il s'allume à la vérité éternelle et il s'efforce de la rejoindre. Ben, nous faisons tout pour ne pas quitter ce chemin de la vérité. Troisièmement, c'est la volonté. La volonté, nous savons que c'est qu'elle a pour objet, ou pour fécondité, pour résultat, elle est faite pour développer l'amour. C'est la fonction de l'amour. Pourquoi ? Parce qu'elle est le bien absolu. Celui qui meut la vérité, elle va vers Dieu, vers le bien absolu, et Dieu est amour. La vérité, le mouvement de la volonté, quand il est vrai, mène à la découverte du bien, le bien qu'est l'amour. Le bien qu'est Dieu lui-même qui attire l'âme, quand l'intelligence montre que c'est la vérité de l'homme de l'acquérir, et en fait, c'est la fin dernière de l'homme. Mais toutes ces trois facultés travaillent ensemble et on voit bien que la volonté est quand même comme le fruit dernier puisque c'est l'amour. La volonté nous amène à l'amour. Et l'intelligence, elle, pour être une véritable, pour avoir un véritable mouvement, exercice, doit se plier dans l'amour. L'intelligence est faite pour éclairer l'amour. Elle n'est pas indépendante de l'amour. Si elle se met indépendante de l'amour, elle n'est plus l'intelligence. C'est-à-dire que nous faisons ces réflexions, nous essayons de comprendre en vue d'aimer, pour aimer, dans l'amour et pour aimer. Donc ces trois facultés, ben, en fait, on le voit bien, elles nous unissent aux personnes de la Sainte Trinité. Elles nous unissent à la Sainte Trinité, qui nous a donné ces facultés afin qu'on puisse marcher vers lui et nous unir à lui, hein, par ces trois facultés essentielles. Mais dans notre organisme, nous avons aussi une faculté très importante, qui est la désirante. Aujourd'hui, je crois qu'on l'appelle davantage la désirante. C'est cette faculté du désir. Hein? Le Seigneur nous enrichit aussi de beaucoup d'autres choses. Hein? Mais ça, c'est quand même le plus fondamental de notre être, des structures de notre âme. Alors la quatrième du Séraphin, la quatrième aile, va donner l'occasion à Saint Bonaventure de montrer que sans le Christ, on ne peut pas entrer dans le chemin de la connaissance ni le parcourir. Le Christ est la porte, ou encore le bon berger, qui emmène son troupeau, humanité, en sécurité à la bergerie, qui est la bergerie du Père. Remarquons que pour les pères, le troupeau a... Pour les pères, ça c'est bien, parce que ce n'est pas du tout un berger qui emmène ses animaux. C'est en fait... Ce sont des pensées, c'est nos pensées. Tout ce que produit notre esprit en nous peut être assimilé à des brebis que le bon berger amène à la bergerie. Ça veut dire que nos pensées, nous devons être un berger de nos pensées, les domestiquer, les nourrir de façon telle que elles puissent aller dans le bon chemin. Par exemple, parce qu'il y a une petite réussite ou je ne sais pas trop quoi, on a une pensée d'orgueil, pouf, ben celle-là, le bon berger doit dire, allez, tu la coupes. Hein. Tu n'as pas le droit d'avoir une pensée comme ça dans le troupeau de tes pensées. Dans le troupeau de tes pensées, chaque fois que ce n'est pas correspondant à la vérité, à la pureté, à l'amour, ce n'est pas une bonne pensée. Alors, le grand travail des moines, de toute la vie monastique, quand vous lisez le travail spirituel des moines, c'est continu, ils luttent contre les pensées. C'est la lutte contre les pensées. Alors, des pensées qui nous assaillent et qui souvent ne sont pas voulues, et des pensées qu'il faut chasser et dans lesquelles il ne faut pas se complaire. Alors, on a toutes les pensées de la chair, et on a toutes les pensées à tous les niveaux de notre consistance, de notre être. C'est-à-dire, d'abord, c'est les pensées charnelles, les désirs sexuels, toutes ces affaires-là, la fausse vision qu'on a les uns dans les autres, au niveau de la chair. Après, les pensées de la vanité, de l'orgueil, de la domination des autres, etc. Tout ce qu'on appelle par le grand traité des pensées, des passions, toutes les passions irritées du vieil homme. Eh bien, dans cette quatrième aile du Séraphin, sans bonne aventure, on profite pour rappeler que nous sommes le bon berger de nous-mêmes, que nous avons à régler nos pensées. On ne va pas le faire par nous-mêmes, ça c'est évident. On va le faire par la prière, par l'œuvre du Saint-Esprit, peut-être par un grand combat. On peut avoir une pensée qui revient souvent, et qu'on chasse et qui revient, etc. C'est là où il y a le combat, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Ça ne se purifie pas, voilà. Mais il y a un combat. Alors, Saint Bonaventure parle à un certain moment de contuition de l'âme. Contuition, C-O-N-T-U-I-T-I-O-N. Contuition. Moi, je ne connaissais pas ce mot. Alors, j'ai été voir dans le dictionnaire, je crois qu'il n'apparaît pas dans le Robert. J'ai regardé dans un autre, le Larousse, il n'apparaît pas non plus. En fait, il vient du latin, ce mot, contuition, donc contuition, dont parle Saint Bonaventure, signifie le regard que l'âme porte sur elle-même. Le mot contuition, c'est le regard que l'âme porte sur elle-même. Et Saint Bonaventure ajoute deux nouvelles précisions concernant le corps nouveau et la contemplation du monde angélique à ce niveau de la quatrième aile du Séraphin. D'abord, le corps nouveau, c'est toute une théorie dans laquelle on ne va pas rentrer, mais ça le dire simplement rapidement, c'est de voir que notre organisme, à ce moment-là, renaît donc dans le Christ, que nous portons le Christ, que nous vivons dans le Christ, et que le Christ développe en nous ce qui est lui-même, c'est-à-dire un organisme humain capable de détecter, de vivre maintenant, non pas au niveau des réalités terrestres, mais aussi des réalités spirituelles. Alors, par exemple, la vue, eh bien, la vue sera, dans sa réalité terrestre, on voit le monde tel qu'il est. Dans sa réalité spirituelle, on va voir les réalités supérieures, c'est-à-dire voir la présence de l'amour, la présence, etc., toutes ces réalités-là. Donc, pour Louis, eh bien, c'est écouter non pas tout ce que le monde est en train de dire ou n'importe quoi, mais c'est écouter le Seigneur parler. On est capable d'écouter les paroles. Quand on lit l'Évangile, on est capable de les considérer vraiment comme des paroles, comme des paroles d'ordre spirituel. C'est-à-dire que notre organisme intérieur, nous avons un organisme extérieur qui fait les cinq sens, et nous avons un organisme intérieur qui, à chaque sens, développe une capacité spirituelle. Alors, l'odorat ressent les parfums du Christ, le goût, quand on chante, qu'il est bon, goûtez, joyeux, goûtez et voyez comme est bon le Seigneur, hein, voilà, ben, le goût, nous avons le toucher, alors ça c'est le problème de la femme hémorroïs, qui touche le vêtement du Seigneur, elle dit je vais être guérie, elle fait un toucher particulier, son toucher, il est inspiré par le désir de trouver la bonté du Seigneur, la miséricorde de Dieu. Alors ce toucher-là, ben, c'est un toucher spirituel, ce n'est pas le même. Alors le cantique des cantiques va servir à dépeindre cette approche du Seigneur par les cinq sens spirituels. Alors là-dessus, il y a une grande littérature des cinq sens spirituels. Donc là, je vous dis le résultat. La contemplation du monde angélique, pour Saint Bonaventure, ça fait partie de cette quatrième aile. Comment Saint Bonaventure voit-il cet événement? Il l'explique en disant que notre cœur, notre être véritable, se trouve restauré alors dans son intégrité, par les vertus et par les apports des sens spirituels. Il est alors hiérarchisé, c'est-à-dire qu'il est illuminé et qui ressemble à ce moment-là aux cinq cœurs des anges. Et il cite Saint Bernard à ce sujet qui écrivait « Dieu aime dans les séraphins comme charité. Il connaît dans les séraphins comme vérité. Il siège sur les trônes comme équité. Il règne dans les dominations comme majesté, il gouverne dans les principautés comme principe, il protège dans les puissances comme salut, il agit dans les vertus comme force, il éclaire dans les archanges comme lumière, il secourt dans les anges comme pitié. » Alors, bon, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'à un certain moment, on sent que on est entré dans une communion beaucoup plus profonde, dans la communion des anges. Et Saint Bonaventure essaie de dire que nos facultés elles-mêmes ressemblent à certains anges. Alors, par exemple, comme il dit, les séraphins. Nous savons que les séraphins sont les anges qui sont les plus près de la fournaise divine de l'amour. Alors, il prend l'exemple, il dit maintenant, moi je ressens, nous ressentons par notre montée spirituelle, nous ressentons que notre cœur est capable d'aimer. Ah, et il en conclut, ben, je suis plus près maintenant des séraphins. Vous voyez comment il travaille. Hein, c'est ce qu'il vient de nous dire. Par exemple, après, il connaît dans les séraphins la vérité. Il voit la vérité, alors il va chercher dans le monde tel qu'il est révélé, hein, ça, c'est la révélation des anges, des puissances. Bon, Saint Paul le porte, hein. Ça vient du monde aussi hébraïque. Et Saint Paul en a toute une tirade, les séraphins, enfin, les principautés, les dominations, les puissances, etc. Alors, Bonaventure fait une liaison, hein, entre ce qu'il éprouve et qu'il l'éveille à la conscience des séraphins. Comme les séraphins, il aime, puisqu'il aime comme des séraphins. Puisqu'il connaît, comme, je ne sais pas, des chérubins. Il gouverne, il a une puissance en lui qui lui rappelle la puissance des... l'ordre des puissances célestes, voilà ce qu'il fait. Donc, dans cette contemplation, il a la contemplation du monde angélique. Et c'est très intéressant, parce qu'en même temps, Saint Grégoire de Nice dit que quand quelqu'un s'intéresse au monde angélique, ça veut dire qu'il est entré dans la deuxième phase de l'illumination. Il a quitté la première qui était la purification et son âme est entrée dans l'illumination. Une autre femme, un autre moment de l'existence spirituelle où l'illumination de l'esprit l'amène à voir la grandeur dans laquelle il est entré. La grandeur du cosmos divin où il n'y a pas simplement que la Terre. Mais il est entré l'amitié des anges. Il prend conscience davantage de la présence de son ange gardien. Il a la conscience aussi que quand on entre dans l'Eucharistie, ben, on entre dans une foule d'anges qui est là. Quand il y a le sacrement exposé partout où il est, il y a une foule d'anges qui est là. Enfin, cette conscience-là qui, bien sûr, n'est pas immédiate hein, et qui demande un travail, bien sûr. Mais ça, c'est un des aspects de la montée vers ce qu'on va voir demain, vers la montée du royaume. Le royaume, c'est cela, c'est l'immensité de ces êtres existants. Et il y a un moment de notre existence terrestre, quand nous avons cheminé, nous en avons... non pas une perception, tant mieux si les gens ont une perception, parce qu'il y en a qui voient leur ange gardien, il y en a qui, etc., etc. Ça, c'est, ils communiquent d'un ange gardien et l'autre ange gardien, comme Padre Pio. Hein. Il a envoyé son ange gardien pour avertir quelque chose, pour avertir quelqu'un, etc. Il y avait des communications d'ange gardien. Hein. Bon. Mais quand ça n'existe pas, au moins dans la foi, nous pouvons vivre la réalité et je sais que c'est pas facile. Moi, quand je rentre dans les portes célestes, là, chez nous, je fais toujours, j'essaie toujours de faire cet acte. Puis de temps en temps, je me dis, ils sont là. Voilà. Bon. Un travail spirituel, hein, de foi. Mais le fait d'avoir cette conscience, c'est que vraiment, effectivement, on a une illumination en nous. Ça, c'est évident. Hein, que si je n'avais pas cette illumination, jamais je m'occuperais des anges gardiens. Ou des anges. Si je m'occupe des anges, c'est que le Seigneur m'a ouvert pour savoir qu'ils existent et puis qu'ils font partie du monde dans lequel on va rentrer. Alors, en conclusion de ce second envol, médian des trois ailes et quatrième aile, voilà ce qu'écrit Saint Bonaventure. Rempli de toutes ces lumières spirituelles, notre âme devient la demeure de la divine sagesse, la maison de Dieu. Elle devient la fille, l'épouse et l'amie de Dieu. Elle devient membre du Christ, notre chef, sa sœur et sa co-héritière. Elle devient enfin le temple du Saint-Esprit, fondé sur la foi, élevé par l'espérance, consacré à Dieu par la sainteté de l'Esprit et du corps. Tout cela est l'œuvre de la très pure charité du Christ, répandue dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné, et sans qui nous ne pourrions rien savoir des secrets divins. En effet, qui donc sait ce qui est dans l'homme à part l'Esprit qui est en lui? De même, personne ne connaît ce qu'est en Dieu, ce qui est en Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Voilà la conclusion de cet envol des 3 et 4e ailes. Maintenant, les deux dernières ailes supérieures du séraphin. Alors, Saint Bonaventure va maintenant nous introduire dans les dernières étapes de la vie mystique. Alors, c'était l'entrée de la vie mystique qu'on a fait avec les deux, avec les hommes, puisqu'on s'est occupé que du Saint-Esprit, qu'on ne s'est plus occupé du monde. Donc, on est entré dans la vie mystique. Hein, faut regarder les choses en face. Hein. La vie mystique, ce n'est pas une chose extraordinaire, etc. C'est simplement qu'on est entré, on a quitté le monde, et puis on s'est occupé de la présence dans nous, du Seigneur qui nous habite. Saint Bonaventure, donc, nous introduit dans les dernières étapes. Et ces deux dernières ailes, la cinquième et la sixième, puisque c'est le séraphin six ailes, ces deux dernières, pour méditer, il va recourir à la parole. Cinquième aile. Selon sa bonne aventure et à la suite de Denis l'Aréopagite, qui a marqué à ce moment-là toute la pensée théologique en Orient comme en Occident, l'idée de l'être est la première idée que nous pouvons concevoir de Dieu, de sa nature, de sa présence qui se manifeste dans la création. Mais écoutez, ça a été notre rencontre, ça a été la première réflexion que nous avons faite, le mystère de l'existence. L'être est ce qui est. Et l'être absolu, c'est ce qui donne à l'être, à tous les existants qui sont créés par lui, de sa puissance, de pouvoir être. C'est-à-dire Dieu est créateur, et tout ce qui est, comme tous les existants, ben, sont créés, viennent de Dieu. Alors, cette idée-là, pour Saint Bonaventure, elle est première. Elle s'impose d'abord. Elle s'impose naturellement à toute l'intelligence. Et elle n'a pas besoin d'être prouvée. Ça veut dire qu'il y a une évidence. L'évidence, c'est que ça existe. Ça existe. C'est une évidence. Je ne peux pas prouver l'évidence de l'existence. L'existence, c'est là, etc. Après, je vais essayer de définir ce que ça peut être. Mais en premier lieu, ben, c'est là, je suis assailli. Et tout le monde devrait reconnaître d'un seul coup l'existence. Après, ils en font ce qu'ils veulent, mais ils ne peuvent pas nier que le monde existe, que tout ça, ça existe. On ne peut pas se fermer les yeux, même s'ils veulent se fermer les yeux, l'existence est là, elle est partout. Voilà. Alors, pour sa bonne aventure, cet événement de l'existence, que l'on trouve donc à tout moment, on a essayé dans la première lecture que j'avais faite pour eux, que de se rappeler des moments où on l'aperçoit davantage, par grâce, c'est une idée qui est la première, qui s'impose à l'intelligence comme une évidence. On constate l'existence partout. Nous voyons parce que cela existe, l'être est, et en fait, l'intelligence ne peut que le constater. Mais c'est pas en constatant que ces fleurs existent que je les fais être. C'est-à-dire que le constat, il vient après. La première idée, c'est que ça existe. En conséquence, on ne peut concevoir le néant qu'en le reportant à l'être. C'est l'être qui est premier. Si vous parlez du néant, ce n'est que par rapport à l'être. Et alors, on va dire que le néant n'est qu'une privation d'être, un manque d'être. Bon. On ne peut aller plus loin puisque on ne peut concevoir que de l'être. On ne peut pas concevoir du néant. L'être est pur, alors sa bonne aventure donne la dénudition de l'être. L'être qui est pur, l'être en soi, l'être absolu est le premier bien. C'est le bien éternel, essentiellement simple. Alors, c'est ce que nous avons essayé de dire aussi quand on s'est rencontrés la première fois. C'est que la conscience des choses qui existent nous renvoyait à l'existant suprême, qui était lui un existant absolu, sans limite, d'un pouvoir infini, sans limite. Et alors que les autres existants sont limités par une forme. Là, c'est la forme de la fleur qui limite son existence, elle est là. Et ce n'est pas un animal, ce n'est pas un nuage, c'est une fleur. Voilà. Tandis que Dieu, c'est un existant absolu. Mais la fleur me parle de l'existant absolu. L'existence de la fleur me renvoie à l'existence absolue qui a donné existence à la fleur. Voilà ce qu'il est dit, c'est que l'être qui est pur, Dieu, l'être en soi, l'être absolu, est l'être premier, éternel, essentiellement simple. Il est le pur agir, le seul parfait. Il est l'un suprême. Et il conclut ainsi, l'être pur absolu est donc le premier. Il est l'origine de tout. Et il entraîne tout, finalement, vers lui. Il est l'éternel toujours présent. Il embrasse et il pénètre toutes les choses, toutes les existences, toutes les durées. Il est à la fois le centre de toutes choses et la circonférence. Essentiellement simple, souverainement grand, il est tout entier en toutes choses et tout entier en dehors. Comme une sphère intelligible dont le centre est partout, la circonférence nulle part. Il est un pur agir tout à fait immuable. Du sein de sa stabilité, il meut l'univers. Voilà. Alors il a là, cette vision de Dieu absolument parfait, pur esprit, qui est au cœur de toute chose. Et par lui, sans bouger, il meut tout. Tout ce qu'il a créé et qui tourne autour de lui comme une sphère qui a un centre et tous les rayons à partir du centre s'en vont partout tout autour de la sphère. La sphère a sa circonférence et Dieu est là, il est au cœur même. Et c'est lui qui commande tout, qui fait que la sphère reçoit d'exister et de recevoir toute la plénitude que le centre donne. Si, par exemple, le centre donnait sur une couleur rouge, ben, toute la sphère deviendrait rouge. Si le centre lui donne une qualité d'amour, bouf, toute la sphère vient amour. C'est-à-dire que le centre qui donne l'existence à tout, c'est le pur l'être puissant, unique, absolu, c'est Dieu. Voilà ce qu'il ressent. Et ça, dans ce centre-là, c'est le centre du bien. Le bien absolu se déverse, naît et se répand à partir de ce centre qu'est Dieu. Et il va se répandre dans toute l'œuvre divine. Alors il dit, tout puissant, très saint, très haut, souverain Dieu. Eh bien, c'est ce que nous chantons. Universel, bien total, toi qui seul es bon. Ça, c'est donc la vision du bien. Et le Saint-Esprit, c'est cette puissance de la diffusion du bien. C'est-à-dire que dans ce cœur, le Saint-Esprit est la force qui fait sortir le bien partout. Il est l'amour divin. Et constater, alors celui qui maintenant, si quelqu'un constate le bien, ben il doit constater Dieu. Notre bonhomme devant lui constater l'intelligence infinie, puis il dit « Oh, j'ai vu Dieu ben ». Quelqu'un qui voit le bien, normalement, il doit voir Dieu. Mais s'il a des yeux qui sont attachés par le péché, il ne va pas les voir. La dernière, l'idée du bien. L'idée du bien va normalement avec l'idée du beau. Le bien, le 20e, voilà. L'idée, donc, le bien conduit à la contemplation des personnes divines, puisque le souverain bien, c'est Dieu. Et alors l'autre, la dernière étape serait celle de le beau. Mais le bien et le beau, c'est deux faces semblables. Le bien, par sa nature diffusible, est diffusible. Il n'existe que pour se communiquer. Le vrai bien, c'est donc le bien éternel, comme la lumière qui naît de la lumière, comme Jésus est le vrai Dieu, et Dieu le vrai Dieu. Il illumine. L'idée du bien va donc rendre compte du mystère du Dieu amour. Et maintenant, il y a une autre aile, la septième, sixième plutôt,
sixième.
La sixième, la cinquième, je vous avais dit la cinquième, aile, hein?
C'est la sixième, là, je crois.
Ah, vous avez dit celle-là. Alors là...
Oui, qui est la sixième.
Alors l'autre c'est la perception de la vérité l'amène donc au bien hein, de l'existence qui est là ramène au bien donc Dieu est le noyau de la circonférence qui diffuse le bien qui est l'amour. Et alors, l'autre qui est lié, je ne l'ai pas là, c'est pour ça que je suis en train de regarder mes notes, mais l'autre, c'est le beau. Le bien et le beau sont mêlés, parce que le beau est l'expression du vrai bien. Le beau est sans l'illumination, si on peut vous dire. C'est-à-dire que ben, ça rejoint un peu même les artistes. Hein. Le vrai beau découle du bien. C'est-à-dire que si un artiste ne peut pas ouvrager vraiment, faire un travail, de manifester le beau, si en lui-même il n'a pas déjà l'idée du bien. Il y a une réalité du bien et du beau qui sont vraiment mêlés. Le bien est toujours beau. Le mal est toujours le contraire. Le, le mal sera toujours contre, enfin, sera une déformation du beau. Ces dernières choses, ces dernières ailes sont les ailes supérieures, hein, si on veut, du bien et du beau. Voilà ce qui nous ressent. Et la dernière, c'est l'étape mystique. Les six premières étapes nous ont permis d'accéder à la connaissance de l'existence, de la bonté souveraine de Dieu et le beau qui est le désir d'en jouir. Le séraphin nous a donc préparé au dernier envol, sous ses ailes. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce que dans notre monde, nous pouvons aller, quand on a fait la saisie du bien, du beau, qui sont vraiment les derniers moments où on peut parler de Dieu, hein, le plus haut de ce qu'on peut trouver en Dieu, puisque le bien, c'est l'amour, et le beau, c'est la jouissance de la vérité divine, de sa splendeur, de sa gloire. Le beau, c'est ordonné à la gloire de Dieu. Alors, est-ce qu'on peut, nous, aller plus loin dans ce monde? Eh bien, la dernière étape que nous disent les mystiques est une autre, une étape de grâce. Alors, si le Seigneur vous y conduit, j'applaudirai les deux mains pour vous, pour votre bonheur. Et c'est l'extase mystique. Et alors, c'est le détachement de soi-même, et on voit que certains saints, dans la contemplation, ne sont plus là. Ils sont saisis par une puissance extatique qui les sort d'eux-mêmes, tellement ils sont déjà comme si, en sortant d'eux-mêmes, ils sont en train de voir la gloire de Dieu. C'est peut-être la grâce des dernières, peut-être, de l'extase mystique qui fait que... Alors on dit aussi que dans l'Eucharistie apporte cette extase mystique, parce qu'il n'y a pas plus haut. Alors peut-être que nous connaissons une extase mystique aussi, chaque fois, très simplement, quand après l'Eucharistie, nous avons des petits moments de repos intérieur. Notre âme est prise peut-être dans les mains du Seigneur, on ne sait pas. Hein. Mais certainement que de temps en temps aussi, voir ressentir en soi une présence et puis en avoir conscience, ce sont des étapes, ce sont des petits moments aussi d'extase. Et on n'a pas... Après, il peut y avoir les grandes extases qui font que l'homme, que la personne, qui sont répertoriées, hein, décrites, où la personne perd conscience de tout ce qui l'entoure, il n'est plus là, quoi. Mais ça nous arrive aussi, hein, des moments où on est comme sorti de nous-mêmes, quoi. C'est des détachements de soi. Et alors, à la question, est-ce possible, Saint Bonaventure répond, interroge la grâce et non la science pour le savoir. Le désir, mais non pas l'intelligence. Le gémissement de la prière, plus que et non pas l'étude des livres. Quoi que ça veut dire? Il nous renvoie à l'événement charismatique. Dieu et non pas l'homme. L'obscurité et non pas la clarté. La lumière qui brille dans le feu, qui embrasse tout entier et qui transporte en Dieu par les onctions de la grâce et les plus brûlantes affections. Ce feu, c'est le Christ qui l'a allumé par la ferveur dévorante de sa passion. Pour savoir ce qu'est ce moment, n'interroge pas la science n'en dira rien, mais interroge la prière, tu le sauras. N'interroge pas ton intelligence, parce qu'elle ne va pas te dire grand-chose, mais interroge le désir, parce que le désir, lui, te fait désirer quelque chose de plus. Et lui, le désir va te dire, va te parler de Dieu. Voilà ce qu'il nous dit. Prends le chemin du gémissement de la prière. Et non pas l'étude des livres. Tu peux lire 1000 fois des choses merveilleuses sans que ton cœur s'allume. Alors c'est par le gémissement, par les larmes, par la prière vraie, ces moments profonds. C'est ceux-là qui vont te dire ce qu'est l'extase. Ce qu'est ce moment où tu perçois la présence divine en toi et qu'elle te fait sortir de ce monde. Vous voyez, c'est pas la peine. Il peut y avoir les grandes manifestations, mais c'est pas au niveau des grandes manifestations qu'il faut chercher, parce que c'est rare. Si vous en avez, tant mieux, mais c'est quand même rare. Par contre, il y a une extase simple. Extase simple, celle que nous reconnaissons tous dans la prière, dans l'intelligence, quand on sense que vraiment on n'est pas. Le monde est plus que ce que nous voyons. Moi, Martine, là, avec laquelle je célèbre l'Eucharistie là tous les jours, qui ne cesse de dire qu'elle n'est plus de ce monde. Oh, moi, c'est Maïa, mais ce monde, non, mais c'est fini. Hein. Voilà. Alors, c'est une forme d'extase continue. Elle est sortie de ce monde. Et elle en a sacrément conscience. Alors, elle est merveilleuse pour décrire ça. Alors Saint Bonaventure conclut, mourons donc, entrons dans la ténèbre, imposons silence à nos préoccupations, à la concupiscence, à l'imagination sensible. Passons de ce monde au Père, avec Jésus crucifié. Transportés de joie, nous chanterons avec David. Ma chair et mon cœur défaillent. Ô Dieu de mon cœur, mon partage pour l'éternité.